Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite. Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Commerce Élite présenté par la firme Pure Commerce, un partenaire de croissance qui veut transformer votre commerce en ligne en commerce élite. Et aujourd'hui sur le podcast, on parle d'entrée des plus grosses erreurs que des e-commerçants ont pu faire récemment. On enchaîne par la suite avec un panel avec deux invités qui nous parlent d'expansion canadienne et américaine. Bonne écoute! L'échec, c'est un terme que tout le monde craint, mais dont on est tous curieux d'en tirer une leçon quand il se produit. Et soyons honnêtes, oui, on tire des leçons de nos propres échecs, mais si on peut apprendre des erreurs des autres, je pense que le choix est vite fait. En faisant des recherches, mon équipe a trouvé un site très intéressant qui se nomme Failory. On y voit la contraction de fail et factory, donc l'usine à échec. Une niche intéressante qui a écrit un article qui se nomme les 31 échecs d'e-commerce et start-up. Parmi cette liste, on en a trouvé quelques-uns qu'on aimerait vous partager des leçons apprises de leurs dirigeants. Et ça commence maintenant. Le premier, c'est F&B, un e-com nord-américain qui avait quand même plus de 500 employés et qui était estimé à plus d'un milliard de dollars en valorisation en mars 2015. En seulement 6 mois, ils obtiennent 1 million de membres. Et en 2012, ils sont à 10 millions de membres. Et important de mentionner qu'on doit être abonné pour voir les produits du site. Et si j'avais à l'expliquer, c'est à la fois un réseau social et un e-commerce, un peu comme Pinterest, qui avait poussé des fonctionnalités bien en avance sur son temps. Notamment celle de partager ses achats et d'offrir un mur ouvert à tous pour montrer ses inspirations. Il y avait une tendance très forte au social commerce déjà en 2011, ce qui est assez avant-gardiste. Donc, on a une entreprise performante qui collabore d'ailleurs avec des gros réseaux sociaux dont Facebook en tant que partenaire et pourtant, plusieurs enjeux se sont déroulés. Et c'est quoi le hic? Son succès. Forcément, quand ça marche bien, vous attirez la curiosité des autres qui ne tardent pas à faire la même chose. Des acteurs très connus nord-américains se mettent à lancer des répliques de F&B. Et la course est lancée et le CEO Jason Goldberg prend des mauvaises décisions. Avant même que le marché américain soit stable, il se met à investir massivement en Europe et achète quelques startups, ce qui fait un joli trou de 100 millions de dollars dans le capital. Ce qui a amené, par la suite, à quelques problèmes de fonds. Ensuite, un autre problème se profile et c'est le délai de livraison. Autour de 16,5 jours en moyenne, et la direction décide d'acquérir leur propre entrepôt dans le New Jersey pour combler cet enjeu. Et ça semble fonctionner, les livraisons passent en moyenne à 5,5 jours et les ventes augmentent. Malheureusement, c'est ici que survient le drame. Galvanisé par cette optimisation, la direction se met à élargir drastiquement son catalogue de produits. Forcément, plus il y avait de produits, plus vous aviez la chance de le trouver ailleurs. Parce que si F&B avait réussi à attirer l'attention avec ses premiers produits, je cite « Personal and Intimate Design », le nouveau catalogue s'était complètement écarté et les clients ne trouvaient plus la raison d'y retourner, préférant Amazon, beaucoup plus rapide et avec un meilleur service client. La firme, valorisée à 1 milliard de dollars, se fera racheter pour finalement 15 millions. Onefull est un autre e-com qui sévissait aux États-Unis dans les années 2010. Le concept était le suivant, un site pour vous aider dans la recherche et l'achat de vos cadeaux, qui pouvait même vous faire des recommandations selon les informations que vous pouviez lui donner. Celui-ci a tellement bien fonctionné qu'ils ont même fini par proposer aux gens d'acheter pour eux-mêmes, signe que la plateforme fonctionnait dans les recommandations des produits qu'elle proposait. Mais cette décision allait signer, malheureusement, leur arrêt de mort. Si tout le monde avait compris que la plateforme avait de grandes qualités concernant les suggestions et l'adaptation à la demande quand il s'agissait de faire des cadeaux, eh bien disons que dès le moment qu'ils ont voulu devenir un vrai e-shop, ils se sont retrouvés en concurrence avec de gros joueurs bien établis comme Wish, par exemple. Forcément, la croissance a totalement ralenti, les investisseurs ont eu peur et Onefull s'est retrouvé seul trop tôt face à des nouveaux concurrents. Et la société fermera 2 ans seulement après son ouverture. Ici, c'est quand même intéressant parce que les deux e-commerce dont on vient de parler, ils ont perdu leur raison d'être. C'est-à-dire que les gens venaient sur leur site pour une raison très spécifique et l'entreprise a tenté de devenir un généraliste. Une bonne notion pour n'importe quelle entreprise. Viva Latina. On passe sur un e-commerce mexicain, mais créé par un Français et Nicolas Tranchant. Malgré une situation d'ingénieur confortable dans l'aéronautique, il quitte tout pour suivre sa femme au Mexique. Il se retrouve sans emploi et démarre un e-commerce qui propose en France d'acheter des bijoux mexicains. L'atout principal de ses produits était le prix bas et Nicolas avait pour mission de laisser petit à petit l'entreprise tourner toute seule. Après plusieurs essais avec des CMS différents, il passe finalement sur Shopify, ce qui lui donne la possibilité d'investir une bonne partie de son temps à promouvoir sa boutique en ligne. Sa stratégie était simple, le SEO. Et le SEO est un canal d'acquisition puissant, mais qui prend un temps parfois monstrueux avant de montrer des résultats, encore plus quand on n'est pas expert. Et pourtant, Nicolas nous explique qu'il se renseignait énormément par des vidéos et des livres. Mais un an plus tard, ses efforts sont réduits à néant quand il prend un Panda Penalty. C'est une pénalité de SEO lorsque votre contenu est très pauvre, comme par exemple une duplication d'un autre site. Et c'est trop pour lui, il se décide alors à acheter une vraie formation. Mais le mal est déjà fait et il a pris un retard colossal dans son développement. Et c'est le premier facteur de l'échec dans son cas. Le deuxième, de son propre aveu, c'est le manque de connaissances concernant son propre marché en France. Après coup, il comprend que les bijoux qu'il propose ne sont pas autant en demande que prévu. Cette fois, l'entreprise n'a pas fermé, mais Nicolas s'est donné le temps pour tout revoir en gardant son nom de domaine, donc son site. Sauf que cette fois-ci, il a énormément investi dans son design web. Il est passé de vendeur de bijoux à créateur de bijoux par l'achat notamment d'une imprimante 3D. Il a changé sa cible pour vendre plus cher et il a revu totalement sa stratégie marketing. Il comprenait que sa société n'a plus rien à voir avec ce qu'il proposait précédemment. Mais cette fois, le succès est au rendez-vous. Du coup, voici les leçons qu'il tire de son échec précédent. Le manque de connaissances et la solitude peuvent avoir raison de votre succès. On prend bien note. Si vous êtes dirigeant marketing pour votre entreprise, vous vous êtes sûrement posé la question « Comment peut-on ouvrir en Ontario? » Comment allons-nous attaquer le marché américain en 2022? Ces questions, qui sont des interrogations très fréquentes pour des boutiques en ligne, on s'est donné le mandat d'y répondre aujourd'hui dans le podcast Commerce Elite. Geneviève Rousseau-Provencher, cofondatrice de Dose Juice, ainsi que Myriam Melzil-Maguire, cofondatrice de Maguire Shoes, m'ont fait le plaisir lors de la journée e-commerce du 8 avril dernier, organisée par l'agence Novatez, de m'expliquer la stratégie qu'elles utilisaient pour se commercialiser hors de leur marché de base. Donc, pour tous ceux qui cherchent une expansion hors Québec en 2022, cet épisode est pour vous. Bonne écoute! Très heureux aujourd'hui d'être sur la scène Google avec nos deux premières invitées pour le volet podcast du jour. Parce que pour la première fois pour la journée e-commerce, il va y avoir une salle qui va être réservée 100% aux balados, aux entretiens de podcast avec des invités qui vont faire une intervention aujourd'hui ou qui auront déjà fait une intervention durant la journée. Et nos premières invitées aujourd'hui sont deux femmes d'affaires qui ont beaucoup de succès. Geneviève Rousseau-Provencher et Myriam Maguire qui sont avec nous aujourd'hui. Mesdames, merci de prendre un petit peu de temps ce matin avant vos interventions plus tard aujourd'hui.
Ça fait plaisir, vraiment
merci
contente
de ton invitation.
Et pour vous donner un petit peu de contexte sur les panélistes, les gens qui sont avec nous aujourd'hui, donc notre première panéliste, Geneviève Rousseau-Provencher, est la cofondatrice de l'entreprise Dose Juice, une organisation qui se spécialise dans les jus bio et qui, en plus d'avoir une présence dans plusieurs milliers quasiment points de vente que tu me disais un petit peu avant l'entretien. Tu vends également en ligne depuis 2013. Ça a été votre cheval de bataille depuis le début. Et Myriam Belzile-Maguire, fondatrice et designer chez Maguire Shoes, une entreprise œuvrant dans le domaine du textile avec des magasins à Montréal, Toronto et bientôt New York. Elle nous disait également avant l'entretien qu'elle est beaucoup en back and forth avec New York en ce moment pour faire l'ouverture en juin prochain. Et l'objectif de la discussion aujourd'hui, c'est simple. Comment votre présence en ligne, comment votre boutique en ligne peut vous aider dans vos canaux de distribution pour vos ventes physiques? On a Myriam qui vend en magasin qui lui appartient et Geneviève qui vend dans des points de vente. Donc, ça va être l'objectif de la discussion aujourd'hui. Et Myriam, je commencerai avec toi. Pour bien situer l'audience, vous avez commencé les démarches en novembre dernier pour ouvrir une boutique à New York, comme je l'ai mentionné, qui va ouvrir en juin prochain. Avant ça, vous avez ouvert à Toronto dans le passé, un endroit, j'imagine, que vous n'étiez pas tellement connu.
Et j'aimerais qu'on discute un petit peu de cette approche-là. Comment vous êtes pris à Toronto au départ pour ouvrir cette succursale-là? Comment vous avez mixé votre présence en ligne pour ultimement amener un petit peu plus de gens dans votre premier magasin de Toronto? Et par la suite, j'aimerais t'entendre à savoir si cette stratégie-là va être la même pour l'ouverture à New York.
Oui, mais effectivement, tu sais, avant d'ouvrir des boutiques, on fait toujours, tu sais, un peu de travail dans le marché en amont, tu sais, avant l'ouverture. Fait que là, tu disais que ça a commencé en novembre, mais en réalité, ça fait un an qu'on travaille le marché de New York. Fait que, tu sais, on a comme une recette qu'on a développée parce qu'on est assez récent, là. Fait qu'on a ouvert en 2016 à Montréal. Fait qu'on a vu un peu qu'est-ce qui avait fonctionné à Montréal, puis on a essayé de reproduire cette recette-là en l'améliorant à chaque fois. Mm. Donc, tu sais, ce qu'on fait, c'est qu'avant d'arriver dans un marché, on fait toujours, on démarre les publicités en ligne au moins un an avant notre arrivée sur le marché. Fait que là, déjà, il y a des gens qui nous attendent. Fait qu'on n'arrive pas dans un marché où personne nous connaît puis nous découvre sur la rue, tu sais, comme à l'époque quand tu ouvrais une boutique physique, les gens te connaissaient juste sur la rue. Puis après ça, on travaille aussi pour offrir le shipping gratuit. Fait que dans le cas des États-Unis, ça nous a pris un an à essayer de penser à la logistique, les douanes, qu'est-ce qui allait être différent un coup qu'on ouvre aux États-Unis, comment adapter notre prix là-bas. Fait qu'on fait tout ce qui est logistique, t'sais, pour s'assurer que quand on ouvre, on peut offrir des produits en ligne entre 24 et 48 heures. Mmh. Puis après ça, on engage une agence de PR locale. Parce que, tu sais, quand on commence un nouveau marché, c'est comme si on recommence à zéro. Fait que, tu sais, au Québec, c'était facile. C'est notre marché local. Les gens, tout de suite, naturellement, voulaient nous encourager. Tu sais, les gens de la presse sont venus chez moi dans mon appartement. J'avais pas de bureau. Puis ils nous ont interviewés. Fait que, tu sais, quand tu es sur ton marché local, tu as beaucoup de sympathie. Puis ça lève plus facilement. Tandis que quand tu arrives dans un nouveau marché, tu repars vraiment à zéro. Fait qu'on engage des agences de PR locales qui vont nous dire « Voici les bons influenceurs, voici les gens dans les médias que vous devriez connaître, que vous devriez bâtir des relations. » Fait que là, à ce moment-là, en ce moment, on fait beaucoup de… On a engagé une agence à New York, on les a magasinés beaucoup. Puis ça, c'est pas évident parce que tu connais personne dans le marché, donc c'est difficile d'avoir des références. Donc, on a trouvé une agence qui est un bon fit avec nous. Puis là, notre but, c'est d'avoir des articles dans des majors. Fait que soit Forbes, Business of Fashion, Footwear News, Vogue. Fait qu'on s'est fait une liste de majors qu'on attaquait.
Avant l'ouverture du magasin.
Avant l'ouverture. Donc là, on s'est fait cette liste-là, puis là, on les contacte avec des cadeaux pour les éditeurs de chaque magazine ou les gens importants de chaque magazine. Puis on a des listes A, B, C. Fait que si le A ne nous répond pas, on passe à son assistant ou on passe à telle autre personne. Fait que c'est très structuré, puis on engage des gens pour ça. Puis après ça, nous, de notre côté, on communique directement avec des influenceurs. Puis on essaie de s'attaquer à des plus petits influenceurs qui vont devenir un peu nos alliés sur le marché. Donc c'est ça, ça fait qu'on crée des alliés dans le marché, fait qu'on trouve des influenceurs qu'on aimerait qu'ils représentent nos produits, puis après ça, on développe des relations avec eux, puis quand on a l'ouverture du magasin, bien, on a des gens invités, on a des gens qui nous ont aidés tout le long du processus, c'est les gens qui ont bâti la boutique, les gens qui nous ont aidés avec tel contact, tel autre contact, fait que tu te refais un réseau d'amis puis de contacts comme si tu étais local finalement.
C'est super intéressant ce que tu dis. Moi, j'aurais quelques questions que je voudrais te poser par rapport à ça. Tu as mentionné, on commence les publicités un bon bout de temps en avance, un an en avance. Ces campagnes de publicité-là que vous allez lancer là, près de 12 mois avant l'ouverture d'une succursale, quels sont leurs objectifs? Est-ce que c'est simplement des campagnes d'awareness sur les médias sociaux pour dire « on arrive »? Est-ce que vous faites de la collecte de emails en leur disant que ultimement quand le lancement va être fait, ils vont avoir peut-être un petit cadeau plus que les autres? Est-ce que ça ressemble à ça, la technique, la structure que vous utilisez?
On n'est pas très sophistiqué. Il faut rappeler qu'on est une équipe de 16 personnes. Puis là-dedans, il y a beaucoup de gens qui travaillent en boutique. Fait qu'à l'arrière, on a environ 7. Donc, on est vraiment une petite équipe. Fait qu'on n'est pas ultra sophistiqué dans nos stratégies. Mais ce qu'on fait, c'est vraiment de la pub pour vendre des produits.
Fait que moi, je vendre avec votre boutique.
On commence à vendre en ligne. Puis les gens commencent à avoir une expérience avec la marque. Puis on voit que ça se multiplie. Puis aussi, une autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait un partenariat stratégique avec un marketplace qui s'appelle Madewell, qui est une entreprise que moi, j'aimais quand j'allais aux États-Unis, qui est bien implantée là-bas, puis qui a une clientèle similaire à la nôtre. Donc, avec tous les marketplaces, on est capable de... C'est comme ils prennent un petit pourcentage par rapport à d'autres boutiques qui pourraient prendre un grand pourcentage. Fait que des fois aussi, de faire un partenariat avec un major sur place te fait découvrir par une plus grande clientèle. Puis depuis qu'on fait ce partenariat-là, on voit des ventes genre partout aux États-Unis. Mmh. Puis aussi, on voit que les gens sont peut-être allés sur le site de Madewell, se sont dit « c'est quoi cette marque-là? » Finalement, ils achètent sur notre site parce que ça a l'air… Il y a plus d'informations sur les produits, plus de photos. T'sais, l'expérience est beaucoup mieux en ligne sur notre site que sur le site de Madewell.
Ouais.
Donc, je pense qu'on ramasse aussi des ventes qui auraient dû être sur le site de Madewell qui vont directement à nous. Puis après ça, on ramasse des courriels. Ils sont classés dans États-Unis, dans New York. Fait qu'on peut se faire des listes. Fait qu'on a une liste Canada-anglais, puis on a une liste Canada-français, puis on va avoir une liste États-Unis. Mmh. Puis on va pouvoir les targeter directement, puis c'est ça, leur parler différemment qu'aux clients canadiens.
Donc, pour les gens qui nous écoutent, que ce soit en ligne ou les gens qui vont être avec nous aujourd'hui pendant la conférence, commencez à vendre directement avec votre boutique en ligne pour ultimement ouvrir un magasin. C'est ce que vous aviez fait à Toronto aussi, là.
Oui, exactement.
Donc, c'est une bonne chose à garder en tête. Geneviève, je me tourne vers toi. Dose Juice, vous possédez des points de vente, des milliers de points de vente au Québec, en Ontario, à Winnipeg, également un petit peu dans l'Ouest canadien. Mais votre cheval de bataille depuis 2013, ça a été les ventes en ligne. Mm. Première question que je te pose, qu'est-ce qui vous a poussé ultimement à se dire, tu sais quoi, on va pas juste vendre en ligne, on va commencer à essayer de vendre un petit peu dans des points de vente. Quelle a été la réflexion derrière ça?
En fait, ça a été plus la demande du consommateur parce que... T'sais, même lancer en ligne, en food, puis on s'en parlait, c'était pas quelque chose que les gens faisaient, c'était pas connu.
En 2013.
Mais pour nous, moi j'avais travaillé chez Frank & Oak, j'avais comme des amis qui étaient dans l'e-com, fait que c'était comme un peu plus les connaissances, puis on voulait tester en premier le marché. Fait que le e-com, c'était la meilleure façon d'essayer quelque chose, d'avoir un feedback plus live, en fait, c'était consommateur. Fait que ça a été comme ça. Puis après ça, il y a des cafés, des épiceries qui ont commencé à nous voir en ligne. Tu sais, ça rejoint un peu la stratégie de créer un peu la demande à travers tes ventes en ligne, puis avoir un espèce de pool du marché physique. Fait que nous, c'est comme ça que ça a commencé. Fait que les cafés nous appelaient. Là, on a du inbound, beaucoup des gens qui vont nous appeler un peu partout, qui veulent distribuer nos produits. Fait que, c'est pas, à ce moment-là, c'est pas une stratégie qu'on avait pensé, réfléchi, puis qu'on se disait, si on va faire ça de A à Z. C'est arrivé comme ça. Puis après ça, c'est devenu un peu notre stratégie qu'on a continué, puis qu'on a perfectionné aussi, puis qu'on a fait à travers les différentes régions, dans le fond.
Et bon, là, présentement, vous, c'est important pour situer là, un peu les gens qui vont écouter ce podcast-là. Vous vendez des produits, on va dire, sur un achat unique dans des points de vente, mais sur votre site web, votre angle d'attaque est relié sur les abonnements. Donc, moi, la question qui me vient en tête quand je faisais mes petites recherches, c'est de savoir comment êtes-vous capable de mixer quelqu'un qui va arriver, qui va acheter vos produits dans un de vos points de vente et les amener ultimement à aller sur votre site web et prendre un abonnement récurrent. Parce que c'est ça, j'imagine, la clé de voûte de votre organisation.
Ou l'inverse,
exactement. Comment tout ça se déroule?
En fait, c'est un défi en soi parce que l'attribution de savoir réellement le client qui va se présenter dans un IGA ou un métro, nos partenaires, puis qui va avoir acheté un produit. Après ça, tu peux faire l'hypothèse qu'il voit en ligne tes publicités, puis après ça, justement, il fait un abonnement, mais ça reste des hypothèses parce que l'attribution physique n'est pas parfaite.
Bien sûr.
Nous, c'est sûr que à la base, on a toujours focusé à optimiser vraiment notre marketing en ligne, nos funnels, nos métriques, le coût d'acquisition, le lifetime value en ligne. Puis après ça, on a utilisé un peu des KPIs, je ne sais pas en français.
Des indicateurs de performance.
Les anglicistes, by the way.
Mais c'est correct, tu peux en utiliser.
Les indicateurs de performance traditionnels, comme la vélocité en magasin de certains types de produits. Fait on joue un peu les deux pour voir, bon, on a fait un investissement quand même important dans les derniers mois, par exemple. Est-ce que la vélocité en magasin a augmenté? Oui, OK, fait qu'il semble avoir justement une relation entre les deux. Mais l'élément qui serait fantastique, j'adorerais pouvoir savoir que c'est Ginette Trois-Rivières, elle a acheté, puis elle a essayé en magasin, puis après ça, est venue s'abonner chez nous. Mais tu sais, naturellement, pour nous, on voit le retail comme aussi une excellente façon de faire du sampling, tu sais, parce que, tu sais, un achat en ligne alimentaire, c'est quand même pas... c'est pas, les gens sont pas aussi habitués, tu sais, les meal kits, etc., mais quand même, un produit, un jus, tu sais, c'est un breuvage, tu sais, c'est pas naturel. Fait que nous, on se dit, bon, on va faire des stratégies pour que les gens puissent essayer physiquement puis aimer notre produit. Puis on va faire l'hypothèse qu'on va être capable, après ça, de les capturer en ligne et de les rendre abonnés pour toujours, tu sais.
Puis peut-être la dernière question que je voudrais poser à ce niveau-là, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que vous faites au niveau de votre packaging, de dire, bon, maintenant que vous avez acheté votre premier jus en magasin, allez voir notre site web, vous avez un pourcentage de rabais pour un abonnement pour 6 bouteilles. Est-ce qu'il y a des techniques, des tactiques comme ça que vous faites de votre
côté? On fait pas, mais en fait, c'est sûr que sur notre packaging, tu as tout notre site web, ouais. On avait les hashtags aussi pour les gens partagent, mais je pense que le push qu'on fait un peu plus, c'est du e-com au physique en ce moment.
Ouais.
Fait que, c'est plus souvent, on fait des choses, bon, montrez-nous, vous achetez vos produits ou prenez des photos de vous avec, on a le nouveau produit qui est notre l'achat de gingembre et curcuma, qui est un produit très populaire. Mais, les gens, ils se prennent en photo en prenant avec leur visage de chat. Fait que, je vois les gens qui en consomment dans différents magasins. Fait qu'on fait un peu cette relation-là. Alors, ça, les gens, des fois même, on demande si vous voulez avoir nos produits. Sur notre site, c'est inscrit. Si vous voulez avoir nos produits dans un point de vente près de chez vous, ils peuvent remplir un questionnaire. Après ça, nous, on peut aller voir les points de vente puis leur dire, il y a clairement une demande de certains consommateurs qui se sont inscrits puis ils ont dit, je le veux à moins cher du coin, mais ils ne l'ont pas. Fait que nous, après ça, on peut influencer les magasins de cette façon-là. Fait que, nous, on y va vraiment du e-com vers le retail pour l'influencer. Puis, on démontre aussi à nos partenaires retailers, on utilise beaucoup notre data en ligne pour leur montrer que clairement, il y a une demande pour nos produits dans leur zone géographique. Parce que ça serait bénéfique pour eux de nous lister parce qu'on peut, d'une certaine façon, leur garantir une vélocité dès le départ. Versus, puis ça revient à votre stratégie, versus une compagnie qui n'a jamais créé un awareness en ligne ou qui n'a jamais aussi créé un awareness dans une zone géographique quelconque. T'sais, lancer en magasin en premier, c'est très, très difficile.
Bien
parce
sûr.
Que tu peux pas vraiment... c'est garantir une vélocité qui est importante pour le retailer.
Tu te bats contre des joueurs qui ont des budgets astronomiques.
Oui, puis la compétition est féroce. Dans les étagères, c'est super féroce. Fait que c'est vraiment une façon de leur dire qu'il y a une bonne chance que je sois capable de maintenir une vélocité intéressante.
Intéressant. Je fais du pouce sur ce que tu as dit, de parler de contenu. C'est le deuxième sujet, mesdames, que j'aimerais discuter avec vous. Donc, vos deux entreprises, vous êtes très présentes en ligne. Vous avez commencé, d'ailleurs, j'ai fait mes petites recherches. Vous êtes beaucoup sur TikTok. Vous faites du contenu natif, du contenu organique. Je commencerai avec toi, Geneviève. Donc là, aujourd'hui, on est le 8 avril 2022. On entre le deuxième trimestre de l'année. À quoi ressemble la stratégie de contenu que Dose Juice est en train d'élaborer, de construire pour la fin de l'année? Comment tout ça se traduit sur les médias sociaux, que ce soit Instagram, TikTok ou autre?
Mais je pense que le mot d'ordre, je pense que c'est pour toutes les compagnies quand même, c'est l'optimisation. Tu sais, on peut choisir un channel qu'on veut investir, mais à la fin de la journée, tu sais, tu vas savoir les résultats que tu vas avoir. Fait qu'il faut vraiment que tu aies un système à l'interne pour mesurer rapidement puis avoir du feedback pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, puis tester. Puis, tu sais, on va pas se cacher, Facebook, c'est quand même un générateur incroyable de trafic encore au Canada. Fait que, ça reste un médium qu'on investit quand même beaucoup. Tu as mentionné TikTok, fait qu'on teste d'autres channels, mais on reste toujours dans l'optimisation. T'sais. Fait qu'est-ce qui va faire partie de ma stratégie dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ça va vraiment dépendre des résultats que je vais réussir à générer par rapport à ces channels-là. Fait que le plus important, je pense, c'est d'avoir une équipe ou une structure d'optimisation pour vraiment savoir qu'est-ce qui fonctionne auprès de ton consommateur.
Bien sûr, t'sais. Prendre l'information en temps réel parce que maintenant, paradoxalement, la surplanification, c'est contre-intuitif parce qu'il y a tellement de choses qui changent à tous les jours. Planifie 30, 45 jours en avance, mais pas plus que ça parce qu'il peut y avoir des changements d'algorithme, puis il peut y avoir des changements au niveau de une nouvelle plateforme qui émerge. Donc,
d'intérêt de ton consommateur. Tu sais exactement. Pas quel genre de publicité que les consommateurs aiment ou n'aiment pas, mais c'est lui qui va te le dire. Fait que toi, tu émets des hypothèses, puis après ça, tu mesures.
Exact. Fantastique. Myriam, je me tourne vers toi maintenant. Tu œuvres dans une industrie qui doit faire des shootings photos, vidéos. C'est très saisonnier. Il y a des nouvelles collections qui vont sortir. Donc, automatiquement, ta création de contenu va être différente d'une entreprise comme Dose Juice. Mais tout de même, j'ai été capable de voir en faisant mes recherches sur vos médias sociaux que vous abordez l'approche un petit peu plus native des contenus avec un téléphone cellulaire, même si vous œuvrez dans le milieu du textile, dans le milieu de la mode. Donc, ma question pour toi maintenant, pour Maguire en 2022, également, comment ça se bâtit une stratégie de marketing de contenu? Peux-tu nous amener un petit peu dans les coulisses de tout ça?
Oui, mais tu sais, c'est vrai ce que tu dis, on a comme des shoots. En fait, on a des shoots e-com qui nous coûtent une fortune parce que on a besoin de mannequins, prend pas n'importe quel photographe. Après ça, on a une styliste, on a toute une équipe sur place. Tu sais, ça se multiplie, là, les gens sur un photoshoot, puis ça coûte très cher. Puis après ça, on a nos médias sociaux où on va prendre des photos avec notre téléphone cellulaire où les filles en boutique prennent une photo spontanée. Puis 95 % du temps, c'est ces photos-là qui ont beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de likes. Puis tu sais, c'est ça qui parle plus aux gens que par rapport à nos photoshoots e-com qu'on paye une fortune. Ouais. Mais dans le fond, ils ont deux usages différents. Le e-com, c'est pour le site web, pour que quand le client arrive et il est devant une paire de bottes à 300 $, il se dit, cette compagnie-là, elle existe pour vrai, puis je vais avoir mon produit au bout de la ligne. Puis, c'est le fun, il y a aussi plein de contenu de gens. Fait qu'on essaie de tout mettre ça sur notre site web. C'est autant le contenu qu'on paye très cher.
Léché, ouais.
C'est ça. Puis le contenu qui est plus spontané ou qui vient de notre communauté. Fait qu'on essaie d'inclure les deux sur le site web, mais c'est vraiment ce contenu-là qui va faire en sorte que la personne va être prête à dépenser 300 $, 500 $ sur notre site, puis qui nous ont jamais vus en personne, puis tout ça. Tu sais, je pense que maintenant, les gens sur les médias sociaux, il y a tellement de contenu léché, puis parfait, puis retouché, que quand ils voient du contenu un peu plus spontané, on dirait que ça leur parle plus. Puis je pense que ça vient beaucoup de TikTok, qui est une plateforme plus jeune, plus spontanée, où les gens, tu sais, posent des vidéos rapidement, tu sais, parce que pour produire des vidéos à chaque jour ou deux vidéos par jour, là, tu peux pas te permettre d'avoir une équipe de montage. Fait que je pense que TikTok a amené un peu de fraîcheur à ce niveau-là. Puis nous, on n'est pas encore, tu sais, on est bon sur Instagram, on est bon sur Facebook, on rejoint deux clientèles différentes. Tu sais, la clientèle Facebook est un peu plus vieille. La clientèle Instagram est un peu plus jeune, puis la clientèle TikTok est encore plus jeune. C'est pas nécessairement notre clientèle encore, parce que notre clientèle a un peu plus de budget pour ses chaussures, mais ça va le devenir. Donc, c'est notre obsession de l'attaquer. Puis nous, quand on est rentré sur Instagram en 2016, c'était difficile. C'était plus facile d'avoir des likes comme avant. Les hashtags fonctionnaient plus. Fait que ça a vraiment été difficile de bâtir une communauté. Tandis que TikTok, là, on est au moment où c'est plus facile. Puis là, j'ai peur qu'on passe de l'autre côté, puis là, que nous, on arrive, puis on manque le bateau.
Les médias sociaux, tu dois toujours te tenir à l'affût. Puis c'est quand même intéressant parce que j'imagine que ça a évolué. Là, quand tu as commencé en 2017, des contenus avec ton téléphone fait très rapidement dans le milieu de la mode, ça devait pas être l'idée numéro un pour créer du contenu. C'était pas encore à ce moment-là, ce qui était excessivement fonctionnel, peut-être parce qu'il y avait moins de gens, de concentration sur les médias sociaux. Maintenant, il faut créer un petit peu du contenu anti-pub pour avoir des résultats. Donc, c'est intéressant que tu dis. Et là, présentement, aujourd'hui, le contenu léché, tu le dis, c'est sur le site web. Contenu natif, c'est peut-être un petit peu plus sur les médias sociaux. Est-ce que tu penses que dans les prochains mois, prochaines années, vous allez peut-être réduire un peu l'enveloppe budgétaire pour ces gros shootings-là, pour repenser un petit peu la stratégie de contenu en général, sachant que vous voyez des meilleurs résultats avec le volet un petit peu plus natif?
Non, parce qu'on fait vraiment le minimum. Okay. On n'est pas dans l'excès. Ça coûte
cher. Restez raisonnable.
Ce genre de contenu-là. Puis on fait même les photos de produits nous-mêmes avec notre investisseur a beaucoup de temps. Puis il a bâti un studio photo dans sa maison à Bromont. Fait qu'on va nous-mêmes faire les photos à Bromont.
C'est rendu de même. Hein? Puis en 2013, nous, on faisait aussi du contenu léché. On investissait dans le beau, dans le beau, dans le beau, dans le beau. Puis maintenant, c'est rendu dans le efficace.
Exact. On sort le contenu en test.
Puis tu testes. Ouais, sort le contenu. Puis qu'est-ce que je pensais que moi allait fonctionner? Ah, ça, c'est beau, ça a fonctionné. Là, regarde tout le monde. Non, ils s'en foutent.
Puis, tu sais, nous, on était très complexés, là, surtout en mode. La compétition fait, mais la compétition a des millions. Tu sais, moi, j'ai commencé avec 15 000 $ là, ma compétition.
Ça ne veut pas dire que ça fonctionne moins. Tu sais, c'est ça aussi. Il faut qu'on un laisser-aller de genre, qu'est-ce que tu imagines de beau, puis toutes les images, puis les vidéos, que ça soit parfait. Mais, tu sais, je veux dire, ça fonctionne peut-être pas. Tu sais, on a l'impression, tu sais, pour nous, c'est comme on appelle ça du vanity metric. Là, on est comme, c'est beau. Mais, t'sais, le plus important, c'est la performance à la fin de la journée.
Exact. C'est une croyance limitante qu'on peut avoir à un certain point de se dire non, le contenu n'est pas tellement beau, ça ne va pas fonctionner. Au final, le consommateur en 2022, et réagit à ce qu'on appelle de l'anti-pub parce qu'il se fait tellement bombarder sur ses fils d'actualité qu'à un certain point, si en tant qu'entreprise, tu veux t'intégrer sur ce fameux fil d'actualité-là, essaye de ne pas ressembler à une pub. Et c'est comme ça que tu risques d'avoir du succès. Et ça fait du pouce sur le troisième sujet, mesdames, que je veux discuter avec vous, l'évolution des canaux publicitaires. Il y a eu beaucoup de changements depuis 12 mois maintenant. Je peux vous en parler. Dans notre organisation chez J7 Média, on est dans le domaine publicitaire et on a vu des changements fondamentaux dans la dernière année avec les canaux sur Facebook. J'imagine Facebook et les autres d'ailleurs. J'imagine que c'est la même chose pour vous. Je serais curieux de savoir, avec cette crise publicitaire-là, on dirait qu'il y a beaucoup plus de boutiques qui étaient strictement en ligne qui sont en train de regarder pour rentrer dans des points de vente, pour rentrer dans des magasins. Geneviève, je me tourne vers toi ici. Vous faites beaucoup de publicité, Dose Juice. D'ailleurs, si on va sur votre site web, inquiétez-vous pas, vous allez en recevoir de la publicité. ça va pas arrêter, puis ça va vous donner le goût d'acheter. Comment qu'on évolue, comment qu'on est capable de naviguer à travers un petit peu, là, je le mets entre guillemets ici, cette crise publicitaire-là qui s'est déroulée dans les 12 derniers mois?
En fait, c'est pas facile. Je pense pas qu'on a la réponse ultime.
Pas encore.
Non, pas encore. Puis, tu sais, je veux dire, évidemment, le coût d'acquisition a augmenté. Tu sais, puis, je veux dire, d'année en année, même, tu sais, justement, les plateformes, c'était plus facile d'avoir du organique. Là, c'est moins facile. Fait que, je pense que c'est toujours le défi de notre équipe. Mais, tu sais, c'est quelque chose que, tu sais, pour parler, en fait, de ce que tu dis, des compagnies qui partent du e-com puis qui s'en vont offline, si on peut, qui retournent là-dessus. Je pense que ça a vraiment du sens. C'est quelque chose que nous, on regarde aussi parce que, tu sais, c'est tout est à propos du coût d'acquisition.
Fait bien sûr.
Si le coût d'acquisition devient trop cher en ligne, mais il faut que tu trouves une façon alternative d'acquérir des clients. Fait que si le physique devient maintenant accessible, mais ça serait fou de n'importe quelle compagnie d'e-com de ne pas l'explorer. Fait que, tu sais, ça revient à tester des canaux différents d'acquisition de clients. Fait que, tu sais, nous, c'est un sujet du moment. T'sais, je ne peux pas dire que j'ai la réponse pour dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait qui va mitiger mon coût d'acquisition? Mais c'est sûr qu'il faut qu'on soit plus agile. Il y a peut-être l'aspect de sampling physiquement. Il y a peut-être, tu sais, peut-être qu'on va revoir la renaissance des canaux traditionnels, que ce soit les mailers chez vous, que ce soit, tu sais, un mix avec la télévision. Fait que, tu sais, je pense que le marketeur de performance qui travaille dans des compagnies e-com va devoir retourner vers...
C'est un ventre, là.
Ouais, puis il va falloir qu'il regarde, en fait, les canaux traditionnels, puis qu'il trouve une façon, puis nous, c'est très important chez Dose de trouver une façon de ne pas perdre la vue sur des KPI, les indices de performance, en fait. Fait que, tu sais, c'est ça, sur les e-com, t'es vraiment toute live, tu sais qu'est-ce que tu peux optimiser, etc., mais physiquement, c'est difficile, fait que comment que le e-com va pouvoir influencer des stratégies offline. Fait que, tu sais, avec les brick and mortar stores, j'imagine que l'acquisition client à travers le email. Fait que, tu sais, une trace de cette façon-là. Fait que, c'est un peu là-dessus que nous, on travaille aussi. Ouais. Comment que le offline puis le online, on peut mixer les deux pour mitiger ça, là.
La prochaine entreprise qui va valoir plusieurs milliards de dollars va te donner la possibilité de cette attribution multicanale physique en ligne.
Ouais.
On est à la recherche de ça, d'ailleurs. Et bon, Myriam, je me tourne vers toi. Dans les 12 derniers mois, la publicité t'a mentionné que quand tu ouvrais une nouvelle succursale, vous faites de la publicité 12 mois en avance. Est-ce que la stratégie publicitaire que vous aviez faite à Toronto au moment de votre première ouverture est la même en 2022 pour l'ouverture de New York ou ça l'a changé avec tout ce qui s'est déroulé dans les 12 derniers mois entre Apple et les géants de ce monde au niveau de la publicité?
Mais tu sais, nous, quand c'est arrivé au départ, ça nous a fait réaliser qu'on n'était peut-être pas assez diversifié dans notre marketing. Puis dans notre cas, ça fonctionnait tellement bien, puis honnêtement, c'était vraiment facile. C'est comme trop facile. On faisait juste mettre nos publicités, on retargetait tout le monde, ça allait super bien.
Ouais.
Fait que, tu sais, ça nous a fait réaliser que des plateformes peuvent fermer du jour au lendemain ou devenir plus populaires. Fait que, tu sais, l'importance de tous nos courriels, nos boutiques, nos stratégies de contenu à l'interne, ça, c'est quelque chose que personne ne peut nous enlever. Fait que ça nous a comme fait recentrer sur c'est quoi l'important, puis c'est quoi les choses que si les médias sociaux changent demain, nous, ça ne va rien changer pour nous. Puis avec, tu sais, notre équipe marketing, c'est une équipe qui est axée sur la création de contenu. On fait principalement ça pour faire vivre la marque puis pour amener le plus de personnes possible sur notre site à nous, directement sur la marque. On vend directement à nos clients. Puis ça a été payant en temps de pandémie. C'est que nos produits n'étaient pas vendus. t'sais, chez des grands distributeurs prisonniers de leurs magasins. Nos produits étaient tous dans notre entrepôt qu'on avait le contrôle, puis on avait la liste de tous nos clients qu'on pouvait rejoindre directement. Fait que là, quand la pandémie est arrivée, ça nous a fait réaliser de l'importance de posséder le plus de clients possible dans ta compagnie. Puis c'est ça la valeur. Puis aussi les boutiques, on ne peut pas nous les enlever du jour au lendemain. Donc, ils nous appartiennent vraiment. Fait qu'il y a toujours ça. Puis on l'a vu aussi avec la pandémie. Des fois, les gens étaient beaucoup, beaucoup en ligne. Puis après ça, ils étaient tannés d'être en ligne. Ils étaient beaucoup en magasin. Là, après ça, il y avait un équilibre. Puis j'avais des amis qui vendaient seulement en ligne. Puis là, ils me disaient, oh, là, il n'y a plus personne. Y a plus. Ouais. Eux, ils ont connu une croissance parce qu'ils ne vendaient pas tant que ça en ligne. Fait qu'ils ont connu une croissance pendant la pandémie. Mais après ça, quand ça leur a réouvert.
Croissance un peu artificielle. Hein?
Oui.
Fait qu'il y a eu beaucoup de alimentaire, ça. C'était fou, là. On était en bonne position en vendant en ligne, mais c'est justement, tu sais, c'est pas, ça a été une croissance exponentielle, mais c'est pas une croissance exponentielle qui pouvait être soutenue toujours.
Exactement.
Mais le plus important a été de capturer les emails, tu sais, justement. Tu sais, que si demain matin, n'importe quelle plateforme de publicité se ferme,
exact.
Ben, tu t'es maintenu, tu sais, comme vous, un contact avec le consommateur, tu sais.
Ouais.
C'est là l'importance de ces boutiques, de ces listes emails-là, on appelle en anglais le first party data, donc de s'assurer que tu possèdes des clients et que ce ne soit pas les autres plateformes qui possèdent des clients à ta place. On utilise les autres plateformes pour aller chercher ce qu'ils sont capables de nous donner et transférer ça sur des clients qui sont capables, ultimement, d'acheter chez nous. Mesdames, là, il est bientôt 10 heures, la journée e-commerce commence. Il y a 18 conférenciers qui vont être là aujourd'hui avec nous. C'est quoi que vous cherchez comme information qui pourrait peut-être vous aider par la suite à intégrer des nouvelles façons de faire avec votre entreprise? Geneviève, je me tourne vers toi. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui que tu aimerais chercher, que tu aimerais trouver comme réponse?
En fait, c'est un peu la question que tu m'as posée par rapport à, tu sais, avec le coût d'acquisition qui augmente, puis avec les difficultés justement des plateformes. Je serais curieuse d'entendre justement d'autres compagnies, qu'ils font aussi à l'interne, puis qu'est-ce qu'ils testent spécifiquement, puis tu sais, ceux-là qui ouvrent justement des magasins physiques, leur propre, tu sais, comme nous, le défi, c'est que c'est pas, tu sais, le IGA, c'est pas mon magasin.
Bien sûr.
Fait que, tu sais, c'est génial de pouvoir l'opportunité de vendre physiquement, mais j'ai pas la possibilité de capturer de email, qui est un défi, tu sais. Fait que, en tant que compagnie alimentaire, tu sais, comment qu'on peut mitiger justement cette perte de connexion que tu as physiquement avec les clients, fait comment qu'on fait des stratégies que je pourrais physiquement aller acquérir des emails autres que offline. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, en fait, que je veux discuter avec différentes personnes puis voir comment qu'on peut se protéger contre le coût d'acquisition qui augmente.
Ben, je pense que l'entreprise de Dominique Dubé, Evive, qui vit un petit peu ces mêmes enjeux-là, que tu pourras peut-être avoir une belle discussion avec lui. Et toi, Myriam, est-ce qu'il y a une information, est-ce qu'il y a des sujets spécifiques qui t'intéresse un petit peu plus que d'autres aujourd'hui pour la journée e-commerce?
Bien, je pense que dans la stratégie numérique, on se pose toutes les mêmes questions.
Ouais.
Là, on réalise. Là. Fait que je pense qu'on a tout quelque chose dans notre entreprise qu'on fait comme il faut. Fait que c'est peut-être un morceau de casse-tête. Fait que si on les met tous ensemble, ça donne plus de réponses. Puis surtout qu'on est des entreprises qui sont pas en compétition directement.
Mm.
Fait que, tu sais, je pense qu'on peut s'échanger des stratégies pour, après ça, aller sur le marché américain, ramener de la richesse au Québec, au Canada. Fait que ça, je pense que c'est super important dans des journées comme aujourd'hui de pas avoir peur de partager parce que c'est comme ça qu'on va devenir plus fort. Puis moi, c'est tout l'aspect, la conférence sur la logistique où Geneviève en fait partie, parce qu'avoir une business en ligne maintenant, c'est avoir une business de logistique un peu.
Bien sûr.
Fait que tout cet aspect-là de logistique m'intéresse beaucoup, tu sais, parce que c'est comment qu'on rend ça performant pour après ça compétitionner avec Amazon. T'sais, nous, on se fait dire souvent, vos souliers arrivent en 24-48 heures. T'sais, on est dans les mêmes standards qu'Amazon, mais derrière ça, il y a toute une logistique, puis je pense que c'est ça qui est intéressant. Puis aussi, tout ce qui touche le marketing d'influence. Malheureusement, les conférences de marketing influence puis logistique sont en même temps, mais c'est deux sujets qui sont vraiment
On va en parler en podcast à 14h, je pense, ou à 13h30 aujourd'hui. Il y a Jérémy Grandmont qui est agent d'influence pour l'entreprise Production J, qui va être ici avec le directeur marketing de Supplément Popeye, Pierrick Tourigny, et il y a également l'équipe de WeCook qui vont être là. Donc, si tu as un petit peu de temps, on va parler beaucoup de marketing d'influence en début d'après-midi. Peut-être qu'il va y avoir des informations qui vont pouvoir vous aider pour la suite. Parce que tu le disais en début d'entretien, hein, vous, le marketing d'influence, vous en faites des recherches et ça a l'air d'être assez important dans votre stratégie de commercialisation.
Oui, mais en même temps, on est toujours à l'aveugle.
Ouais.
t'essaies des choses, mm-hmm. si jamais ça va fonctionner. Fait que, tu sais, plus qu'on se partage des informations là-dessus, peut-être plus qu'on... T'sais, on a des pistes pour ça. Fait que c'est, ça reste quand même, tu sais, ça change constamment. Les règles changent constamment. Fait que ça reste quand même un sujet qu'il faut toujours que tu sois à jour puis que tu vois ce qui se passe, ouais, puis que tu testes.
Puis d'ailleurs, on parle beaucoup de changement, mais qu'est-ce qui, en 2022 et en 2023, dans l'e-commerce, ne changera pas, selon vous? Est-ce qu'il y a des fondamentaux qui sont prêts à rester, qui sont bien ancrés présentement dans des stratégies qui, peu importe ce qui se déroule, vont perdurer à travers les années? Je terminerai avec toi.
Je pense que la recherche d'informations, nous, on le voit, les gens, il y a plus de data qui dit que les gens, avant même d'entrer, mettons, dans une épicerie, vont avoir à 90 % fait déjà leur... savoir exactement ce qu'ils vont acheter. Fait qu'ils achètent avant même d'aller physiquement. Mmh. Fait que, tu sais, le partage d'informations, le contenu, la génération de valeur pour le client avec de l'information, tu sais, par rapport à mon produit, les jus, les bénéfices, bien ça va jamais changer. Les gens vont toujours googler, même devant peut-être physiquement le produit pour trouver l'information. Fait que c'est notre job de leur donner cette information-là puis d'être présent quand justement ils vont taper gingembre, bien c'est dose qui va popper en premier ou souligner la tendance 2022, bien c'est Mugger qui va arriver en premier. Fait que la gestion d'information, ça va toujours rester, je crois.
Intéressant.
Moi, je pense que le modèle hybride qu'on parle beaucoup, je pense qu'il va être encore là dans 2, 3, 4 ans, puis il va peut-être prendre encore plus d'importance. Si j'entendais beaucoup parler de « on va de e-com à en boutique », mais nous, dans notre cas, c'est « on va de e-com à en boutique », mais on va aussi de « en boutique à e-com
».
Parce que quand la personne est devant toi, tu peux lui parler de ton programme d'abonnement en ligne, puis tu savais pas avant que ça existait. Fait que, tu sais, ça... Une plateforme, l'important, c'est que les deux plateformes se parlent puis qu'il n'y ait plus de silos comme avant.
Ouais.
Avant, il y avait un silo boutique. L'employé en boutique ne voulait pas que tu ailles commander en ligne parce qu'il perdait sa commission. Puis après ça, en ligne, tu n'amenais pas nécessairement en magasin ou tu n'avais pas l'inventaire qu'il y avait en magasin quand tu es en ligne. Donc, plus que tu brises ces frontières-là, mieux c'est. Si tu sais qu'il reste une caisse de jus au magasin de brossard, la sorte que tu veux, ben là, tu te déplaces, tu sais que tu vas être bien servi. Tu sais, ma soeur, elle me disait, quand je travaillais au Clément, à Place Sainte-Foy, on appelait à Gary de la Capitale, puis là, on disait, on va vous le transférer, revenez dans une semaine. Mais là, maintenant, le client n'a pas besoin de revenir dans une semaine en boutique s'il n'a pas envie.
Ouais.
On lui envoie directement chez lui.
Ouais.
Fait qu'il n'y a plus de frontières. T'sais.
Le client est aussi très exigeant. T'sais. Quand il veut quelque chose, il veut là, sinon il va l'oublier.
Ben, il a été élevé avec Amazon. Hein? Maintenant, donc, les standards sont élevés et si l'entreprise n'est pas capable à un certain point d'être proche de ce standard-là, il va rapidement changer de loyauté quasiment et aller voir quelqu'un qui est capable de lui offrir plus rapidement. Geneviève Brousseau-Provencher, Myriam Belzile-Maguire, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec moi ce matin. Je vous souhaite des bonnes conférences un petit peu plus tard, je pense, en journée. Espérons que vous ayez un bon moment la journée e-commerce et espérons que les gens qui vont écouter notre entretien par la suite apprécient vos conseils. Merci beaucoup, mesdames.
Merci.